Paso doble.
Paso doble.
Le grand entretien culture des petits matins. Lundi, littérature.
Bonjour Éric Viard.
Bonjour Toufik Hakem.
14 juillet, tel est le titre de votre dernier livre paru chez Actes Sud. Avec un titre pareil, on sait d'emblée de quoi il va être question. L'histoire de la Révolution française, la prise de la Bastille, une de nos dates de naissance, pour reprendre votre belle formule. Mais comme vous l'écrivez, page 83 du livre, au fond, le 14 juillet 1789, on ignore ce qui se produisit. Les récits que nous avons sont empesés ou lacunaires. C'est depuis la foule, sans nom, qu'il faut envisager les choses et l'on doit raconter ce qui n'est pas écrit. À ce moment du récit, qui prend la parole ? L'historien ou l'écrivain ?
C'est l'écrivain, indéniablement, puisqu'il s'agit non pas de s'en tenir strictement aux faits, même si donc c'est un récit et qu'à ce titre je n'invente rien. Il s'agit de donner de la chair et donc d'incarner, en quelque sorte. C'est cela, raconter, je crois, ce qui n'est pas écrit. C'est-à-dire, Foucault raconte, je crois, dans la préface de La vie des hommes infâmes, que quand il lit des procès-verbaux, ce genre de documents anciens, quelque chose palpite qui est plus fort que le roman, ce qui est juste. Mais du coup, je crois que quand on est dans le courant de l'écriture, en littérature, il s'agit justement, là, à partir d'archives de ce genre, d'essayer de puiser en elles ce qu'il y a de touchant et de leur redonner vie.
Et pourquoi êtes-vous allé plutôt de ce côté-là de l'histoire de France ? Pourquoi revenir à cette date de symbole, Éric Viard ?
Pour plusieurs raisons, mais au moins une importante, c'est qu'il me semble que quelque chose flotte aujourd'hui, enfin qu'un peuple se cherche un peu partout, en Europe, mais pas seulement d'ailleurs, et que... Au fond, il était intéressant peut-être de se retourner vers cette date qui, en quelque sorte, plie l'histoire en deux et quel l'instant, je pense, où on a vu pour la première fois un peuple entrer sur la scène de l'histoire.
Mmh. Vous êtes donc beaucoup documenté ?
Oui, je suis allé aux archives nationales, donc j'ai principalement, et puis aussi j'ai travaillé donc sur des documents qu'on trouve à la BNF, qui sont des relations en fait du temps. Je me suis surtout appuyé sur les relations qui ont été jusqu'à présent les plus écartées ou les plus méprisées selon, c'est-à-dire les relations des gens des moins importants, c'est-à-dire non pas celles des députés ou des gens qui ont joué un rôle important dans l'histoire, mais par exemple celles de Chola qui était marchand de vin ou de Humbert qui était horloger, mais aussi les procès-verbaux de la police, c'est-à-dire les procès-verbaux du Châtelet.
Rendre la révolution au peuple, ce que vous vouliez faire à travers ce récit ?
Oui, en effet, quelque chose comme ça. Il s'agissait de se pencher. On a au fond, disons, une liste qui est celle des vainqueurs de la Bastille, qui a été élaborée petit à petit et qui est évidemment très incomplète, puisqu'il y avait des centaines de milliers de personnes autour de la Bastille, une foule, mais cette liste ne donne que les citoyens dits actifs, c'est-à-dire ceux qui ont voulu se signaler après pour obtenir une médaille. Et donc, c'est une liste qui représente uniquement, disons, la frange armée qui a bien voulu se déclarer. Et puis, on a aussi un compte. Alors, le compte est de 98 morts. Et alors, donc, entre cette liste qui donne un certain nombre de noms, avec la profession des gens, avec parfois leur date de naissance, parfois leur adresse même, eh bien, on peut essayer de reconstituer quelque chose comme une narration collective, au fond. C'est-à-dire essayer de d'abord choisir parmi cette liste des protagonistes, et puis de chercher dans les archives quelques faits, d'en trouver dans les relations, et puis de construire aussi des silhouettes et une sorte de papillonnement de foule, enfin donner le sentiment de la foule.
Tout est dans le choix. Toute votre subjectivité d'écrivain, de sympathisant peut-être, est dans le choix des personnages que vous retenez pour ce récit, Éric Viard.
Oui, alors il y a une part tout à fait subjective dans le choix. C'est pas un choix totalement rationnel. Je ne me suis pas penché sur la liste et sur les documents que j'avais. J'en avais beaucoup, évidemment, dans les archives. J'y ai travaillé quand même assez longtemps. Non, je me suis laissé guider par ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire donc des affinités peut-être. Peut-être aussi que certains procès-verbaux sont plus touchants que d'autres. Et puis c'est comme ça que petit à petit des personnages sont nés. Et puis également tout de même une logique qui est de reconstituer petit à petit de personnage en personnage tous les épisodes importants, disons, de la journée, la prise du premier pont-levis, celle du second, voilà. Donc, choisir aussi, bien sûr, les personnages qui, dans les relations, sont tout de même plus ou moins au centre de cet événement et d'autres dont on peut savoir qu'ils étaient autour.
C'est remarquablement écrit, votre récit, Rick Villard, parce que si vous choisissez des personnages du passé, vous choisissez aussi d'en parler au présent, avec les mots du présent, raconter le passé avec les mots d'aujourd'hui, raconter la crise économique qui frappait la France en ce printemps 1789, reprendre deux exemples précis, c'est pas anodin, c'est pas innocent, deux grands patrons qui décident de baisser les salaires des ouvriers. Notez que la dette publique ne cessait de croître et elle va entraîner justement plus de misère. Et aussi préciser que c'est la bourse déjà qui prenait la température du monde à cette époque.
Oui, alors en fait l'histoire est toujours écrite depuis un temps donné. On a parfois l'idée d'une histoire qui pourrait être figée une fois pour toutes. C'est-à-dire à partir du moment où on aurait dépouillé toutes les archives, où on aurait en quelque sorte tirer la vérité des documents. Mais non, chaque époque, retrouvant les mêmes documents et parfois d'autres, les lit d'une autre manière. Elle les lit, par exemple, à la lumière des difficultés qui sont les siennes. Évidemment que Michelet, Louis Blanc ou Jaurès, la société de leur temps n'était pas la même que la nôtre. Alors quand on relit les relations de ce temps, eh bien effectivement le chômage de masse que subissait la France, la banqueroute, la dette de l'État très importante, la place aussi de Necker, donc banquier suisse qui se retrouve donc ministre, l'un des derniers ministres des Finances de Louis XVI, qui est un homme qui a spéculé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la dette souveraine, et effectivement ce que vous notez, à savoir cette révolte donc du 28 avril 89, où deux patrons ayant signifié qu'ils souhaitaient baisser les salaires des ouvriers, pour la raison d'ailleurs qu'un traité de libre-échange avait été pris entre l'Angleterre et la France. Tout ça, évidemment, fait relief.
Avec le présent, voilà. Bien sûr. 14 juillet, d'Éric Villard, un extrait.
Il y a des gens partout. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer un instant le gouverneur et les soldats de la citadelle jetant un œil par-dessus les créneaux. Il faut se figurer une foule qui est une ville qui est un peuple. Il faut imaginer leur stupeur. Il faut imaginer le ciel obscur, orageux, le lourd vent d'ouest, les cheveux qui collent au visage, la poussière qui rougit les yeux. Mais surtout, la foule de toutes parts, au bord des fossés, aux fenêtres des maisons, dans les arbres, sur les toits, partout.
Il faut imaginer, on vit ce 14 juillet avec vous, Rick Villard. Là, vous trichez pas, c'est pas l'historien qui parle, ce sont pas les faits, juste les faits, c'est un écrivain qui raconte, qui analyse et qui commente les faits en assumant sa subjectivité d'ailleurs. Comment incarner la révolte, les foules décidées à prendre la Bastille? Comment raconter la révolution, les révolutionnaires? Comment de l'histoire officielle revenir aux histoires des hommes? Est-ce que c'est le métier d'écrivain que de rappeler les noms des premiers martyrs, des premiers leaders, même des premiers déçus de la révolution, d'imaginer ce qu'ils ont pu faire en cette journée particulière du 14 juillet?
Oui, je pense que D'abord, entre l'histoire de la littérature et l'histoire tout court, enfin l'histoire politique, il y a une forme d'adossement. C'est sans doute parce que la Révolution française a eu lieu que quelque chose comme ce que nous appelons, nous, une littérature est possible. C'est d'ailleurs aussi parce que, au tout départ, de manière inverse, une littérature commençait à naître, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau, le siècle des Lumières, qu'une révolution a été possible. Il y a donc, un double adossement. Et je crois que pour une part, le rôle de la littérature consiste à faire, je parlais tout à l'heure d'un conte et d'une liste. Donc il y a une liste avec des doublons, mais de 954 personnes actives ce jour-là. Il y en avait en fait évidemment 200 000 ou 300 000, mais donc de personnes armées qui ont bien voulu se signaler. Et puis il y a un conte, 98 morts. Quand on le donne comme ça, 98 morts, et qu'on donne la liste des noms, au fond, bon, nous sommes informés, mais pas davantage. Tandis que si je pioche parmi ces morts deux ou trois personnes, que je raconte à partir de procès-verbaux, que j'en fais quelque chose comme de la littérature, alors je pense que nous sommes soudain touchés.
Mmh. Et comment se positionner quand on a autant d'éléments, autant de noms, autant de zones floues, grises? Autant de blanc.
Alors, en réalité, nous avons tout de même beaucoup de documents, puisque pour la première fois, c'est le peuple, comme je le disais, qui entre sur la scène de l'histoire. Et à ce titre, on en a fini avec l'histoire héroïque, c'est-à-dire celle qui est centrée sur un personnage comme le Grand Condé, par exemple, et où donc une seule ou deux relations racontent héroïquement, selon des normes rhétoriques établies, donc la journée. Cette fois-ci, non, on a une pluie de petits documents. J'évoquais tout à l'heure Chola, qui a laissé une relation. Il était vraisemblablement illettré, il était marchand de vin, et il l'a donc dicté à quelqu'un. Et il ne raconte que ce qu'il a vu, que ce qu'il a fait. Et donc, j'ai épousé, pour une part, ces relations. J'ai épousé, je me suis appuyé sur les procès-verbaux en tentant de les incarner. Et je crois que l'un des désirs, enfin l'une des formes que la littérature cherche à prendre depuis le début du XIXe siècle, c'est au fond, je crois, de pouvoir raconter le collectif. De parvenir à faire que ce vieil outil qui est le roman et qui était adopté uniquement au fond à la geste héroïque se transforme en une chose collective et qui nous ressemble. On peut dire que, je sais pas, Victor Hugo, Zola et beaucoup d'autres romanciers ont tenté et réussi à le faire parfois.
Et dans ce récit, est-ce que vous avez calculé, voulu une place, la place de la voix d'aujourd'hui, votre place, votre vision, vos sentiments?
Je crois qu'il y a deux choses. Tout d'abord, comme je vous le disais, des événements prennent de toute manière relief parce que un écrivain comme un lecteur du temps les voit d'une autre manière. Et puis aussi, il se trouve que pendant longtemps dans cette histoire du roman, il y a eu ce qu'on appelle le narrateur. Et je crois que cette fonction un peu hautaine, lointaine, très curieuse, qui était le narrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait tout et qui voit tout, tend à s'éteindre. Donc je n'ai pas souhaité du coup écrire une Bastille vue du ciel, mais comme je le disais, une Bastille vue d'en bas.
Oui,
d'où peut-être aussi la présence d'un jeu, puisque c'est à ça je crois que vous faites référence, c'est-à-dire c'est donc que tout à coup la figure du narrateur, cette figure omnipotente et omnisciente, défaille et disparaît, et qu'au fond la figure de l'auteur aussi, qui a été très remise en question dans les années 60 et 70, s'efface, il me semble, au profit, enfin c'est je vous donne un avis rétrospectif par rapport à un usage que j'en ai eu spontané, mais il me semble que ça s'efface au profit d'un jeu beaucoup plus direct, au fond, puisque je ne crois pas qu'il y ait un auteur ou un narrateur en train d'écrire quand j'écris. Il y a une personne avec un état civil qui est le même que le mien, et je vois guère de différence entre lui et moi.
Voilà, et vous imaginez les situations, et vous souhaitez à la fin de ce récit une révolution. Vous dites que vous qui avez imaginé cette pluie de documents, ce renversement de situation, vous souhaitez que ça se reproduise aujourd'hui, qu'on revive ce genre d'événement aujourd'hui plus que jamais?
Oh, c'est pas seulement que je le souhaite, c'est que c'est mis en place, disons, dans l'élan de la Révolution française, un système qui est la démocratie parlementaire, et c'est un système qui a effectivement, par rapport au régime antérieur, permis un plus de liberté et un plus d'égalité. Mais il me semble que beaucoup de gens sentent aujourd'hui que ce système, d'une certaine façon, est évidemment incomplet, problématique, et qu'il y a un désir là, donc, de plus d'égalité, de plus de liberté qui se fait sentir. Et je vois pas pourquoi, jusqu'à la fin des temps, nous vivrions maintenant sous un régime qui, d'une certaine façon, distingue toujours entre ceux qui nous représentent et nous.
La musique que vous avez choisie, Éric Viard, pour nous parler de votre dernier livre, 14 juillet, est assez, assez inattendue. Moi, j'attendais une symphonie de Berlioz autour des grands morts de la Bastille. Vous venez avec ceci. On s'attendait à la grande messe des morts de Berlioz, et ben non, vous avez préféré venir avec les Noces du Figaro de Mozart par Niville Mariner. Pourquoi, Éric Viard ?
Bien, les Noces de Figaro donc de Mozart ont été jouées pour la première fois le 1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne. C'est donc 3 ans seulement avant le 14 juillet 1789, et au fond, cette musique est une comédie de valet. C'est-à-dire que pour conjurer les caprices de son maître, Figaro, qui est valet et qui doit épouser Suzanne, qui est camériste, doit faire toute une série de mauvais tours. Eh bien, avec le 14 juillet 1789, désormais, les valets n'auront plus seulement à jouer de mauvais tours pour conjurer les caprices de leur maître. Comme je le disais tout à l'heure, ils feront effraction sur la scène de l'histoire et la littérature prendra une autre figure, finalement, que la comédie de valets. Et puis, on entend une chose, néanmoins, dans cette musique, qui, je crois, est très forte et peut résonner avec le 14 juillet, c'est qu'on y entend la raison et la joie.
Rétroviseur, il y a un an, je vous recevais, Éric Viard, non pas pour parler d'un roman, mais d'un film que vous avez réalisé, Matteo Falcone, adapté d'une nouvelle de Prosper Mérimée. Voilà ce que vous me disiez alors.
Ce qui m'intéressait, c'était la structure tragique au fond de cette nouvelle qui est, on peut dire, la version littéraire du mythe d'Abraham, en quelque sorte. Si on accepte cette idée de Lévi-Strauss que les mythes sont en somme la somme de leurs versions différentes, avec parfois des fins différentes. Et puis, ce point que justement c'est la version littéraire et c'est une version très radicale puisque là le père tue son fils. Il me fallait donc un espace qui reflète au fond quelque chose de la tragédie qui soit difficile à situer. J'ai donc, vous voyez, vous avez du mal à savoir où c'est. Effectivement, j'ai cherché longtemps. C'est sur le Causse Méjean dans les Cévennes et dans une partie très particulière du Causse qui est plutôt boisée ou alors très aride. Et là, dans une partie très herbue, très très belle, très sauvage, et avec cette chose notamment que comme on est au sommet, enfin il y a un endroit du plateau très particulier, on ne voit pas de montagne autour. On a donc soit de la terre, soit du ciel.
Voilà, ça c'était l'année dernière. Et s'il fallait parler du 14 juillet, s'il fallait le relier, cette révolution, à un mythe, Éric Viard ?
Un mythe. Je crois qu'au contraire, justement, ce qu'il y a de très particulier avec le 14 juillet, c'est que c'est en quelque sorte la fin des mythes, la fin de l'histoire mythique, la fin de la grande histoire. L'irruption sur la scène à la fois politique, sur la scène collective, d'une manière séculière de concevoir la politique et la vie ensemble.
Merci d'être passé ce matin, Éric Viard. Je rappelle, 14 juillet, édité chez Actes Sud. Belle matinée.
Merci.
L'extrait de 14 juillet, le dernier roman d'Éric Viard, édité par Actes Sud, a été lu par Marie Constant. Vous pouvez réécouter cette émission et vous abonner au podcast de Pas au Double en passant par franceculture.fr. Demain, on parlera d'une exposition, le Grand Orchestre des Animaux, qui a lieu en ce moment à la Fondation Cartier à Paris.